There is no such thing as jazz. There's only a song. And your spirit. And your ancestors.
There is no such thing as jazz. There's only a song. And your spirit. And your ancestors. I don't know what I'd have done without Billie Holiday or Bessie Smith or Sarah. All these I follow in a tradition. Never sounded like anybody but themselves.
Super Jazz Woman. Quand les musiciennes libres d'hier inspirent celles d'aujourd'hui.
Bonjour Chloé.
Bonjour Guillaume.
On est ici au Conservatoire Régional de Tours, en compagnie de toute l'équipe du Petit Faucheux qui nous accueille pour un nouvel épisode de Super Jazz Woman, le podcast.
Alors Super Jazz Woman, le podcast, c'est un podcast qui nous fait découvrir des musiciennes, des portraits croisés de musiciennes d'hier et d'aujourd'hui.
Souvent des femmes qui sont restées dans l'ombre en fait et qui ont dû développer des capacités d'adaptation hors normes pour affirmer leur place dans un milieu essentiellement masculin.
Alors je suis toujours en compagnie de Guillaume Hasbrouck, pianiste, compositeur, fondateur de la compagnie Frasque.
Et moi en compagnie de Chloé Caïton, chanteuse incontournable en fait de la scène du jazz en France.
Voilà. Alors aujourd'hui on accueille une musicienne, on a beaucoup de chance, une musicienne multi-talentueuse. Elle est trompettiste, elle est compositrice, arrangeuse, elle est improvisatrice, elle porte de nombreux projets et groupes. Il s'agit de R.L. Besson. Bonjour R.L. Besson.
Bonjour Chloé, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Alors juste, petite parenthèse, on a écouté un extrait de The Sound of Your Voice, partie 1,
c'est ça,
absolument. Part 1, ouais. De l'album Try, qui est sorti l'année dernière.
Exactement.
C'est ça, avec ouais. Ton quartet, avec Isabelle Sorling au chant, avec Benjamin Mousset au clavier, au piano, et Fabrice Moreau à la batterie.
Exactement.
Voilà.
Alors aujourd'hui, en fait, on va commencer par un portrait de toi-même, mais qu'on va croiser avec des figures en fait de musiciennes du passé. C'est un peu le principe de Super Jazz Woman. Ensuite, on aura une partie chronique qui sera consacrée à la notion d'invisibilisation. Et puis on terminera par un live, on va jouer ensemble,
c'est chouette.
Mm-hmm. Alors R.L., sans revenir sur l'ensemble de ton parcours, parce que là on en aurait pour très longtemps, mais donner quelques jalons. J'ai vu que j'ai découvert ça aujourd'hui, que tu avais étudié alors que tu étais adolescente avec Roger Guérin.
Oui,
ouais.
Ouais, c'était mon premier prof de jazz. En fait.
Ouais, grande figure du jazz en France.
En France, absolument. Ouais. Ouais, il paraît qu'il a joué avec Dizzy Gillespie.
Mais
j'ai
oui.
vu ça, incroyable.
Quincy Jones.
Mais ouais. Et oui, en fait, tu sais, c'est dans les années sans doute 90 où les premières classes de jazz à Paris se sont montées dans les conservatoires parce qu'il y avait déjà des classes de jazz dans les écoles privées, le CIM, Arpège, tout ça. Et moi, petite étudiante de trompette que j'étais, j'avais 4 ou 5 ans de trompette et je voulais m'inscrire en jazz, donc mon père m'a inscrite au conservatoire du 10e arrondissement, et c'est là où la première classe de jazz a ouvert. Ouais, et donc c'était mon prof, mon professeur. Donc c'était quelqu'un déjà d'avancé dans l'âge, évidemment.
Ouais.
Et j'ai plein d'anecdotes, si vous voulez.
Bah oui. Ma curiosité.
Forcément, je m'en souviens très très bien, hein, parce que c'était les premiers cours. Moi, j'étais toute petite, j'avais 10-11 ans. Donc la première, c'est, je me souviens, on était en cours. Et il me disait, non, prends pas ta trompette, on va jouer que du piano. Il faut déjà, il faut que tu apprennes les accords au piano avant la trompette. Donc je me souviens, je sortais quasiment pas ma trompette du cours du tout, mais on faisait les pianos comme ça. Et mon cours, il avait lieu en début d'après-midi, ça c'est l'autre petite anecdote. Et peut-être que je devrais pas le dire, mais si, c'est drôle. Il avait lieu en début d'après-midi, et je pense après un repas assez arrosé.
Tu vois venir le truc.
Ouais. Et du coup... Je faisais mes accords au piano, il était comme ça, tu sais, c'est un piano droit, donc il était comme ça, tu sais, bon, on voit pas, c'est dommage, c'est la radio, mais il était accoudé au piano devant moi, et je me souviens avec des effluves d'alcool, et quand t'es petit, je crois que ça te marque, donc je faisais mes accords, et puis là, je chantais, et j'essayais de respirer à côté pour pas trop entendre. C'est mal de dire ça, mais en même temps, c'était tellement, voilà, j'essaie, mais en même temps, voilà, il était tellement... Enfin, il était, ça aurait pu être mon grand-père, en fait, à l'époque, tu sais. Moi, j'avais 10-11 ans, et puis il était tellement gentil avec... Il dit, voilà, c'est bien, maintenant, il faut faire cet accord, mais apprends le piano d'abord, après, tu feras la trompette. Mais tes accords, c'est le plus important. Voilà, c'est ça, les petites anecdotes.
On va parler de musique, hein. Donc, on voulait t'interroger avec Chloé sur... Ce qui est l'évidence quand on t'écoute, que ce soit quand tu joues ou bien quand on écoute tes compositions, eh bien c'est la prééminence de la mélodie en fait qui est là en permanence, et même au-delà de ça, même de la vocalité en fait. Alors par la présence d'Isabelle Sörling, mais aussi dans ton jeu énormément. Et est-ce que tu voudrais bien nous parler de ça?
Waouh, dans mon jeu aussi, tu dis?
Ah, oui.
Dans la vocalité dans le jeu. Ah ouais. Ah oui, je me rendais pas compte de ça, mais oui, effectivement, la mélodie, et j'ai l'impression que c'est ce qui caractérise la musique que je compose. Oui, j'ai l'impression que j'arrive pas à faire autrement qu'avoir une sorte de mélodie qui est toujours là, en fait, avec des accords derrière. Mais c'est ça qui me suit. Enfin, non, c'est elle qui me suit. Enfin, je sais plus qui suit l'autre, mais en tous les cas, il y a ça. C'est ça que j'entends dans l'oreille, en fait. Et à chaque fois, c'est sur les mélodies qui me happe, qui me. Donc, ouais.
Peut-être que toi, tu passes par le chant toi-même.
Ah oui.
Est-ce que ça fait partie de ta pratique, je sais pas.
Ah oui, super bonne question. Alors, je les chante pas, j'oserais pas. mais par contre, je les ai dans l'oreille, effectivement, comme plutôt quelqu'un qui chanterait. L'autre fois, on me demandait si je composais à la trompette. Je dis, oh là là, non, qu'est-ce que ce serait en kiki, non? La pauvre trompette. Non, en fait, c'est des choses que j'ai dans l'oreille, effectivement. Même pas vraiment au piano. Des fois, je vérifie un peu au piano, mais en fait, c'est vraiment des choses qui sont dans l'oreille. J'imagine que c'est des choses un peu simples, mais c'est ouais, il faut que ce soit, ouais, c'est ça, chantant en fait, exactement, mm-hmm. Comme tu dis, chantant avec des mélodies consonantes, donc les notes pas trop loin les unes des autres, éventuellement, mais
des mélodies qui soient accessibles, quoi,
ouais,
qui parlent aussi. Mm. Mais je sais, pour avoir travaillé avec toi là, que tu sais chanter, tu les chantes très bien, tu les chantes très facilement, toutes ces mélodies. Donc j'imagine qu'elles passent d'abord par ta voix, même si c'est ta voix intérieure. Mm. Et puis qu'ensuite, finalement, la trompette, c'est le prolongement de ça.
C'est très, très bien dit. J'ai rien à ajouter. Je crois qu'effectivement... Okay. Non, mais oui, je reconnais ça. La voix intérieure, c'est beau, ça, de dire ça.
Et ça s'accompagne d'une certaine épure, d'une certaine économie de moyens, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est aussi, chez toi, un tremplin pour qu'il se passe quelque chose dans le groupe, en fait.
Ah oui, les purs, ouais. Qui est un matériau un peu de base, un peu vierge, pas trop haut, comme ça. Oui, ça c'est vrai, exact. Ouais. Exact, c'est vrai que dans ce quartet-là, en tous les cas, j'aime bien avoir un matériau qu'on puisse modeler, qu'il soit malléable, qu'on tourne dans tous les sens, et que chacun se sente à l'aise de le faire, chacun quand il l'envie, à la droite, à gauche, je sais pas où. Et puis après, on suit un petit peu. Je trouve que c'est ça qui est ludique, finalement, qui fait que chaque fois, ça va être différent. Pour nous, pour le public, et on interagit, et c'est vrai que t'as vu ça aussi,
oui, j'ai senti ça, c'est ça, hein, c'est tout à fait ce que j'ai senti. C'est une musique qui demande, qui est au départ assez simple, mais en fait on comprend bien pourquoi. C'est parce qu'elle demande une grande implication de la part de chacun, de, comme tu dis, de trouver son espace et puis de se l'approprier. Et puis après d'être dans une grande présence de l'instant et d'être un maximum à l'écoute, prêt à l'interaction, prêt à... Voilà. Et pourquoi pas emmener le morceau complètement ailleurs. De toute façon, ça se voit, vous avez tous les trois ou tous les quatre la grande liberté de faire ça.
Ouais, exactement. Comme ça
vous chante.
Exact. Ouais, le terrain de jeu est assez vierge et après chacun met un petit peu de la couleur, enfin ce qu'il veut. Et effectivement, t'as raison, Chloé, d'accentuer ça, la spontanéité, puis l'espace. Chacun prend son espace, voilà, et garder ce terrain de jeu libre et neutre et ouvert, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça.
Ça, pour moi, c'est vraiment faire équipe.
Eh bien, on écoute.
C'est un truc de... Ah oui, c'est pas...
Oups.
Voilà, on vient d'écouter un extrait donc de Radio One. Yes. C'est le titre éponyme, en fait, hein, titre
complètement du premier album. Voilà. Ça nous ramène en 2015. On l'a enregistré en juin 2015 à la Buissonne et c'était vraiment les tout débuts du quartet. On n'avait pas fait beaucoup de concerts, voire on en a fait deux et demi ou trois. On avait répété et c'est vraiment c'est marrant de réécouter ça, tu sais, parce que c'était tout jeune.
Ben, en tout cas, moi c'est un morceau que j'avais entendu que vous aviez joué en live au Victoire du Jazz.
Exact.
Moi, je me souviens, j'étais là et j'avais écouté et j'avais trouvé ça super, vraiment super. C'est pour ça que voilà, c'est pour cette raison et aussi une autre raison que on a choisi cet extrait, c'est qu'on sent bien justement ce truc de ça s'installe, ça se met, ça s'installe ensemble, le rythme, le groove, il y a quelque chose qui est dansant et qui est
très, raison, très c'est exact. En plus, l'introduction de ce morceau, c'est vraiment ça. C'est chacun. Il y a une mélodie, évidemment. Mais l'idée, c'était de la dévoiler progressivement. Alors, sur le disque, il ne faut pas que ce soit non plus trop long, mais en live, on faisait à durer. Et que chacun apporte un élément de la mélodie, qu'on la construise ensemble. Donc, c'est exactement ça. Et à un moment donné, il y a Isabelle qui chante avec le Ray Football Games on Radio One. Ouais.
Alors RL, on avait quand on est entré en contact avec toi, on t'a posé la question qu'on pose à toutes les musiciennes qu'on accueille, qui est-ce qu'il y a eu dans ton parcours une figure musicale qui aurait été importante, qui t'aurait influencé. Et en fait. T'as pas répondu
au risque de vous décevoir. Ouais,
justement,
ça parle de ça aussi, Super Jazz Woman, justement, des fois de cette absence de figure féminine. Mais du coup, on s'est prêté à un petit jeu avec Chloé, c'est d'imaginer qui aurait pu peut-être dans un autre temps, dans un autre monde, qui aurait pu, tu vois, être marquant précédé. Pour toi. Mmh. Et du coup, on a quelques extraits sonores à te faire écouter.
Ah, super. Ah, vous avez trouvé des trompettistes en plus ? Attention, ça rigole pas là. On a attends, les archives, les histoires et tout. Ouais. a pas beaucoup hein, de trompettistes, peut-être Ingrid Jensen.
Tu l'as trouvé facile. Ça t'évoque ces, wow. ces trois extraits.
Ouais, bon, bah, les deux premières, je ne les connaissais pas, je suis désolée, je dois dire. Et la troisième, évidemment, je l'ai rencontrée. J'avais demandé des conseils, même il y a quelques années, j'avais pris coup des cours avec elle, avec Ingrid. Ouais. Ouais.
Alors, peut-être qu'il faut qu'on dise qui sont ces trompettistes.
Oui, 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 bien sûr. Bah, oui.
Alors, la première, c'était donc Dolly Jones.
Wow.
La seconde, c'était. Donc, Dolly Jones, c'est donc années 20-30. Mm-hmm, voilà. Mm-hmm. La seconde, c'était Valaïda Snow.
Wow. Des Américaines, évidemment.
Mm-hmm. Ouais. Tout à fait. Et puis, donc, la troisième, c'est Ingrid Jensen.
Oui, canadienne, qui est évidemment superbe.
Et on voudrait te faire écouter encore un nouvel extrait. Ça te dit quelque chose ?
Non, je suis désolée, je ne connais pas.
C'est normal parce que c'est assez obscur, malheureusement. Ouais. C'est un morceau de Myriam Alter. Alors, Myriam Alter, c'est une pianiste-compositrice qui est installée en Suisse, qui a eu une carrière un petit peu. Qui a mis du temps à s'installer mm-hmm. parce que je crois qu'elle avait étudié la musique dans sa jeunesse, ensuite elle a fait autre chose, et puis vers 30-35 ans, c'est là vraiment qu'elle a commencé sa carrière. Et cet album, l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est un album qui s'appelle Alter Ego, c'est l'album qui m'a fait découvrir cette musicienne. Elle joue pas dedans, et c'est moi quand j'ai découvert cet album, j'étais vraiment frappé par l'aspect mélodique en fait de sa musique, que c'est pour ça que j'avais envie de te faire écouter ça, parce que ça, pour moi, ça fait vraiment écho. Et c'est pareil, une grande économie de moyens dans l'écriture, et mais qui permet en fait aux improvisateurs de plein de chemins, et une grande ouverture, une grande liberté, quoi. Donc ça me paraît.
Merci pour la découverte. Et en même temps que tu es en train de parler, effectivement, j'ai la mélodie un peu en tête. Effectivement, il faut, je vais découvrir ça un peu plus en détail. Je ne connaissais pas du tout.
Là, en fait, on est en train de proposer un petit parcours de compositrice. Donc, on chemine dans ce parcours et peut-être on en écoute une autre. Alors, c'est peut-être beaucoup plus éloigné. Je ne sais pas. En tout cas, nous on y voit, on imagine des ponts.
D'accord, très bien.
Compositrice française, pianiste. Donc il s'agit de Lily Boulanger.
J'allais dire, de toute façon, il n'y en a pas énormément.
Ben oui, c'est ça.
D'accord.
Reflet, ça s'appelle. Et d'accord. Alors, il me semble que la chanteuse, c'est la soprano Maria Ricarda Wesseling, enfin la mezzo-soprano. Mm-hmm. Est-ce que ça a pu à un moment donné faire partie des choses que tu as écoutées ou de près ou loin?
Non, pas plus que ça, je connais son existence, je sais qu'elle a fait beaucoup, qu'elle a été une magnifique professeure pour beaucoup de personnes. Pour citer une organiste, Rhoda Scott, je sais qu'elle a pris des cours avec elle. Hein.
Ah oui, c'est avec Nadia Boulanger, avec sa sœur.
Avec Nadia, pardon,
ouais.
D'accord.
Mais bon, c'est vrai,
c'est vrai.
Les deux figures sont...
Les deux figures, hein.
Parce que malheureusement, Lily Boulanger est morte très très jeune. En fait, elle avait 24 ans quand elle est morte, en 1918.
Donc elle a composé.
Et elle a composé, en fait, sur la fin de, de sa courte existence, elle a composé plein d'œuvres orchestrales, vocales, tout ça, magnifique.
D'accord.
Et c'est donc, voilà, et sa sœur, du coup, comme tu le disais, a été un mentor pour plein de musiciens, musiciennes.
Et de compositeurs, hein, voilà, je crois, des compositeurs.
Et notamment dans le jazz, parce que même Quincy Jones, Gigi Grice, ont étudié avec elle.
Ouais. Donc moi, je suis pas plus allée chercher que ça, mais voilà, je savais que elles étaient là.
Est-ce que toi, quand tu écris, il y a quelque chose qui présiderait à l'écriture d'un morceau ? Comment ça te... Comment ça se passe
le processus d'écriture, de composition. Non, enfin, il n'y a pas vraiment de règles ou de. C'est comme ça vient. C'est vraiment comme ça vient dans la tête, comme tu disais. Ouais, c'est l'oreille intérieure, c'est l'oreille qui préside tout, en tous les cas, ça c'est sûr. Et je dirais que la mélodie arrive en premier, il me semble, en découle les accords. Et j'aime bien aussi le contrepoint, évidemment, d'avoir une mélodie principale et après qu'il y ait la secondaire qui arrive et puis une ligne de basse et en même temps à la rythmique. Ouais, en fait, il y a tellement de possibilités. En fait, j'ai envie d'essayer toutes les possibilités. Enfin, pas toutes, parce que bon, on ne peut pas tout faire dans un morceau. Mais c'est une bonne question. Il va falloir que je me la pose un peu plus en profondeur, là. Bah, si, ou pas, je sais pas.
En tout cas, tu as l'air d'écrire beaucoup.
Ouais.
Tu as l'air d'être tout le temps un peu en chantier, en train de.
Ouais, c'est vrai. Depuis. Je crois que ça, vraiment, j'ai mis le pied là-dedans à partir de la résidence à Coutances que j'ai faite initiée en 2014. À partir de ce moment-là, je crois que j'ai jamais autant composé de ma vie que pendant 3 ans, là, où il y a eu je sais pas combien de créations, peut-être une dizaine de créations, dont celle pour orchestre symphonique où on invitait Yoon Sun-na avec un trio de jazz. Et depuis, j'ai pas mal de commandes qui se succèdent. Ça vient en fait naturellement. Je vais pas provoquer trop les choses, mais c'est ça. Il y a des choses qui sont souvent en cours, exact. Ouais.
Alors, on voudrait aborder une notion aujourd'hui. J'espère qu'elle ne te concerne pas.
C'est peut-être qu'elle te fera réagir. Mais cela dit,
voilà, c'est le phénomène de l'invisibilisation.
Voilà. Alors, l'invisibilisation, la première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'était, je me souviens, dans une émission de radio, c'était dans le champ de la recherche universitaire. Il y avait une sociologue qui s'appelle Nathalie Heinisch qui parlait d'un plafond de verre et qui avait créé une banque de données dans laquelle elle restituait toutes les idées et les concepts, elle les restituait à leurs créatrices et à leurs autrices. Puisque elle s'était fait sans doute subtiliser, ou en tout cas les sources n'avaient jamais été citées, les vraies sources qui étaient des femmes, souvent avaient été oubliées. Donc l'invisibilisation, c'est le fait de faire disparaître une femme de l'histoire. Donc les mécanismes pour y arriver sont multiples. On fait passer la femme au second plan, on la fait disparaître complètement, on minimise son action, peut travestir sa vie, diminuer ou voler son travail. Et ce qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'on cantonne la femme à être la femme d'eux ou la sœur d'eux. Donc, par exemple, l'autrice en question parle de Nannerle Mozart, qui est invisibilisée par son frère Amadeus, et pourtant qui était plutôt promise à une carrière de compositrice aussi. Bon. Voilà, après la suite, on la connaît. Rosalind Franklin, scientifique oubliée alors qu'elle a participé à la découverte de l'ADN. Marthe Gauthier, chercheuse sur la trisomie 21, dont le travail a été caché par Jérôme Lejeune. Ou il y a aussi Marie Curie, bien sûr, dont le prénom a été ajouté à la station Pierre Curie à Paris en 2007 seulement. Voilà, c'est des exemples qui peuvent être anecdotiques, mais en fait, ce sont vraiment les applications, enfin, c'est la vraie invisibilisation concrète. Donc, on a ce phénomène, bien sûr, dans la musique, on le retrouve.
Oui, malheureusement. Et donc, on a, dans le champ du jazz, on a débusqué un flagrant délit d'invisibilisation.
Ça va te parler.
Voilà. Et on va le démontrer par l'exemple. On va écouter 4 extraits. Le premier, c'est un morceau de Marie-Lou Williams qui s'appelle Walking and Swinging, qui date de 1936, qu'elle a écrit pour l'orchestre d'Andy Kirk. Et donc ce morceau, il est composé d'un thème principal et puis après il y a un thème secondaire qui arrive un peu plus loin, un spécial, tu vois, tu connais ça, qui arrive un petit peu plus tard dans le morceau. Eh bien, on va commencer par écouter cet extrait et puis ensuite on va écouter en 1939 Charlie Christian qui joue un morceau intitulé Pagine Dr. Christian, donc il ne fait pas référence ni à Marie-Lou Williams, enfin en tout cas il ne crédite ni Marie-Lou Williams ni le morceau original Walking and Swinging. Ensuite on va écouter Al Haig en 1950 qui reprend le même motif en fait, mais qui l'intitule cette fois Opus Caprice et qui se l'attribue. Et puis dernier exemple, c'est en 1957 Thelonious Monk qui subtilise aussi le motif et qui l'intitule Rhythm Unning. Voilà, et puis on réécoutera à nouveau Marie-Lou Williams pour l'entendre un petit peu improviser sur ce motif.
Ah ouais. Ah oui. Effectivement, Rhythm and Hang. Effectivement. Et vous pensez qu'il le savait quand il le faisait ?
On connaît la relation qu'avait Thelonious Monk avec Marie-Lou Williams parce qu'elle était très centrale en fait,
oui,
au moment du bop.
Absolument,
tout ça.
Oui. Voilà. Elle rencontrait tous les musiciens à cette époque-là, effectivement.
Ouais,
elle conseillait. C'est
donc
étonnant.
On peut penser qu'avec Monk, il y a eu une espèce de transmission, peut-être. Voilà, après, qu'est-ce qu'il autorisait ?
Sans qu'il le sache, il.
Ouais.
Sans bon. Qu'il.
Et il y avait encore un autre exemple, c'est Sonny Stitt. Qui a écrit aussi, enfin qui a pas écrit hein, du coup un morceau,
qui a repris
aussi le truc. Wow.
Toi, tu m'as dit que tu avais travaillé un petit peu autour de
oui.
Tu avais découvert finalement assez tard l'existence de Marie-Lou Williams,
oui.
Son œuvre.
De son œuvre, oui. Ouais. Il se trouve que l'année dernière, notre ami journaliste, comme vous, Alex Dutille, à France Musique pour Open Jazz, mais en fait, c'était pour des émissions d'été. Il m'avait invité pour une série de Ladies au sommet. Et on avait fait une série de 4 compositrices, donc une émission par compositrice. Et la première, c'était Marie-Lou Williams.
Okay.
Et je me suis dit, quand même, pour savoir à peu près de quoi on parle, je me suis vraiment plongée complètement dans sa vie. Et effectivement, j'ai découvert, c'est incroyable, ouais, en 1920, voire peut-être un tout petit peu avant, cette première femme noire américaine qui joue du jazz avec des musiciens, entourée de musiciens. Et comme tu le disais, à un moment donné, elle faisait... elle recevait beaucoup de jazzmen, donc Monk, Bud Powell, énormément. Enfin, plein venaient prendre conseil auprès d'elle. Et elle était tellement moderne que pour son temps, mais à chaque fois, ouais, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Après, donc il y avait Marie-Lou Williams, après c'était Carla Bley, après Maria Schneider. Et j'ai eu l'honneur d'être la dernière.
Super.
Mais non, c'était vraiment très intéressant.
Ouais.
Ouais.
En tout cas, les noms que tu as cités, là, Maria Schneider, Carla Bley, Marie-Lou Williams, c'est des noms qu'on retrouve tout au long des épisodes. De Super Jazz Woman, parce qu'on en fait aussi, on en dresse aussi les portraits. Donc, vous allez retrouver ces musiciennes-là et découvrir leur univers musical.
C'est incroyable, leur univers musical et humain. Enfin, évidemment, c'est musical, mais l'humanité, la personnalité, Marie-Lou Williams, qui débarque à un moment en Europe ou en France. Oh là là, puis Carla Bley, prolifique d'écriture. Enfin, Maria Schneider aussi. Ouais, c'est... Ouais. Qui continue en, ouais, en plus.
Oui, comme tu dis, il y a toute une dimension humaine. En fait.
Oui, humaine surtout. Ouais, c'est vraiment leur vie. Tu sais, j'ai eu la chance de jouer avec Carla Bley il y a très longtemps, avec Charlie Haydon, dans le Liberation Music Orchestra. Dans le, ouais, oh. Ouais, la chance. Ouais, c'était, ouais, là, là, trop de chance. Bref, je passe les détails et je me suis retrouvée à remplacer un ami musicien à Guimarães, au Portugal, sans répétition. Bim, on joue. Je me souviens que Charlie Haydon, il était déjà très, pas diminué, mais fatigué. Il venait pas aux balances, il venait juste au concert. Il avait des plexiglas à côté, il avait son petit radiateur parce qu'il avait froid. Il portait toujours des gants. Bref, on fait le concert. Moi, j'avais demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrebasse dans mon retour. Je me suis dit que c'est peut-être la première fois. Donc, j'essaie de prendre un maximum. Tu sais, t'essaies de prendre tout ce qui se passe à ce moment-là. Et le lendemain matin, je prenais un avion tôt. Eux, ils continuaient leur tournée. Et je me retrouve à faire le petit déjeuner avec Carla Bley. Et donc, on discute un petit peu comme ça. Elle me dit, elle me dit deux choses. La première, c'est ça fait du bien d'écouter des jeunes musiciens et une jeune musicienne qui joue pas trop de notes. Yeah. Je me souviens encore, ton petit déj à 8h du matin, tu sais, ça va faire pas ma journée, mais ma semaine, mon année, ma décennie, là. Et puis, à un moment, j'étais là, moi, j'étais bien avec elle et tout. Elle me dit, bon, RL, je suis désolée, je dois retourner travailler, je dois faire ma composition et mon arrangement pour telle et telle chose. Et c'était un dimanche matin à 8h et je me dis, waouh, quelle leçon! Tu sais, ok. Tu sais, c'est juste, ça te met dans un espèce de mood de feeling. Dis, yes! Allez, on y va.
Super.
Ouais.
Wow. Et bah justement, souvenir. On y va, ouais. On joue.
Ah, bah oui,
on va jouer ta musique.
Bah, oh là là, oui, c'est vrai, incroyable.
On va jouer une composition d'RL Besson et ça s'appelle Try.
Ouais, je voulais juste ajouter que je suis très heureuse de le jouer avec vous aujourd'hui. Et c'est la première fois que je joue avec d'autres musiciens que le quartet, donc je suis assez émue et merci de l'avoir choisi celui-ci. Voilà, je voulais juste le dire, c'est la première fois qu'il va résonner dans d'autres lieux et oreilles, et c'est génial. Merci.
Ça aussi.
Try to get the best of everything. You have to try to get the best of every day. And try to see the best in everyone. And try get the most of every day. Try to get the best of everything. You have to try to get the best of every day. And try to see the best in everyone. Try your best to get the most of every day. Thank you. to get the best of every day and try to see the best in everyone. Try your best to get the most of every day. You got to try your best to get the most of everything. You have to try to get the best of every day. You got to try to get the most. Ooh. Ooh. Oh, oh, oh. La, oh.
Merci à tous, à toutes. C'était Super Jazz Woman. C'est pas facile de parler après avoir chanté, ni de chanter après avoir parlé, je peux vous le dire. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Et merci RL, merci Guillaume. À la prochaine.
Super Jazz Woman, un podcast réalisé par Chloé Caïton, Guillaume Hasbrook et Lucie Baverel. Enregistrement et mixage, Mathieu Plouchard. Production, Le Petit Faucheux. À l'initiative de Françoise Dupas. Un projet possible grâce au soutien de la DRAC Centre-Val-de-Loire et du Centre national de la musique.